15h51.
Chapitre 36. Le gaillard d'arrière. Entre Akab, puis tous.
Peu de temps après l'épisode de la pipe, un matin, le petit déjeuner terminé, Akab monta, comme à son habitude, au pont par l'échelle de la cabine. La plupart des capitaines au long cours ont accoutumé de s'y promener à cette heure, comme les gentilshommes campagnards font quelques pas dans leur jardin après ce même repas. On entendit bientôt son pas d'ivoire aller et venir d'un rythme régulier, tandis qu'il faisait sa ronde coutumière sur des planches si souvent foulées que, telles des pierres des temps géologiques, elles portaient un peu partout l'empreinte particulière de sa démarche. Eussiez-vous, en outre, regardé avec attention son front labouré de rides, vous eussiez remarqué de plus étranges traces de pas, celles que laisse une pensée dont le cours ne connaît ni jour ni nuit. Mais, en la circonstance, ses sillons semblaient plus profonds, à l'instar de son pas nerveux qui creusait davantage, ce matin-là, les marques sur le pont. Et Akab était si pénétré de sa pensée qu'à chaque demi-tour qu'il faisait, sans varier, au grand mât puis à l'habitacle, vous eussiez presque pu voir cette pensée tourner en lui. Aller en lui, comme il allait, le posséder, si complètement qu'on eût pu croire qu'elle était le moule intérieur de chacun de ses mouvements visibles. « Vous l'avez vu, Flasque ?» chuchota Stubb. « Le poussin qui est en lui donne du bec dans sa coquille. Il ne va pas tarder à sortir. » Les heures passées, Akab était tantôt enfermé dans sa chambre, tantôt sur le pont qu'il arpentait, avec, dans son aspect, la même fanatique détermination. La fin du jour approchait. Il s'arrêta soudain près du parvoi. Ficha sa jambe d'ivoire dans le trou de tarrière, et, une main agrippant un hauban, il ordonna à Starbuck d'appeler un rassemblement général à l'arrière. « Capitaine !» s'exclama le second. Surpris par un ordre rarement sinon jamais donné à bord, sauf dans des cas extraordinaires. « Tout le monde à l'arrière !» répéta Akab. « Oh ! Les hommes de vigie là-haut, sur le pont !» Lorsque l'équipage tout entier fut réuni, les hommes l'observant avec une curiosité mêlée d'une certaine appréhension, car il ne ressemblait pas peu à l'horizon du côté du vent, quand s'annonce une tempête, Akab, après avoir jeté un rapide coup d'œil par-dessus le parvoi, puis promené un regard pénétrant parmi les marins, quitta sa place et reprit ses pesantes allées et venues, comme s'il n'y avait âme qui vive près de lui. Il continua ainsi, la tête penchée, le chapeau à demi rabattu sur les yeux, indifféremment au murmure d'étonnement qui parcourait l'équipage. Stubb, à la fin, dans un chuchotement discret, dit à Flasque qu'Akab avait dû les rassembler pour assister à une marche d'endurance. Mais Akab fit encore quelques pas et, s'arrêtant brutalement, s'écria « Que faites-vous quand vous voyez une baleine, matelot ?»« On crie à plein gosier, » répondirent spontanément, en chœur, 20 voix. « Bien. » approuva Akab d'un ton âpre en notant la joyeuse excitation dans laquelle les avait magnétiquement jetés sa question inattendue. « Et que faites-vous ensuite, matelot ?»« On affale un canot et suce à la baleine. » »« Et quel est le refrain que vous entonnez quand vous poussez sur les avirons ?»« Meurt la baleine ou coule la pirogue ?» Chaque cri rendait l'expression du vieil homme plus étrangement, plus joyeusement, plus véhément, plus véhémentement approbative, et les marins commençaient à se regarder les uns les autres avec attention, comme surpris que ces questions apparemment sans objet puissent les échauffer à ce point. Mais ils redevinrent tout empressement, quand Akab, pivotant à demi dans son trou et levant haut le bras pour saisir un hauban qu'il serra ensuite d'un geste presque convulsif, s'adressa à eux en ces termes. « Vous, les vigies, vous m'avez tous, naguère, entendu donner des ordres au sujet d'un cachalot blanc. Regardez bien. Vous voyez ce doublon espagnol ? Il tenait, levé dans le ciel, une grosse pièce d'or. Cette monnaie vaut 16 dollars, matelot. C'est un doublon. Vous le voyez bien, monsieur Starbuck ? Passez-moi ce maillet. » Tandis que le second allait chercher le marteau, Akab, sans mot dire, frottait lentement la pièce d'or sur le pan de sa vareuse, comme pour en arriver le lustre. tout en fredonnant la bouche fermée, et le son qu'il produisait était si singulièrement assourdi et inexpressif qu'on aurait cru entendre le grondement continu des rouages de sa mécanique vitale. Prenant le maillet que lui apportait Starbuck, il s'avança vers le grand mât, brandissant le marteau d'une main et exhibant de l'autre le doublon, puis, d'une voix forte, il s'écria « Celui d'entre vous qui me lèvera un cachalot à la tête blanche, avec un front ridé et une mâchoire tordue, celui d'entre vous qui lèvera ce cachalot à tête blanche, avec une queue percée de 3 trous dans la nageoire tribord, celui qui me lèvera ce cachalot blanc, celui-là, mes petits gars, aura la pièce d'or. » « Hourra, hourra !» crièrent les marins, qui agitèrent leur suroi, en manière de salut au moment où l'or fut cloué aux mains. « C'est un cachalot blanc, vous dis-je, reprit Akab, en jetant le maillet sur le pont, un cachalot blanc. Soyez à l'affût, mes garçons, n'épargnez pas vos yeux. Guettez une eau blanche, et même si vous n'apercevez qu'une seule bulle, donnez de la voix. » Tout ce temps, Tashtego, Dagou et Kikeg l'avaient observé avec un étonnement et un intérêt plus vif que les autres, et à la mention du front ridé et de la mâchoire tordue, ils avaient tressailli comme si chacun d'eux avait été personnellement touché par un souvenir particulier. « Capitaine Akab, dit Tashtego, ce cachalot blanc doit être celui que certains appellent Moby Dick. »« Moby Dick ? » hurla Akab. « Tu connais donc le cachalot blanc, Tash ? Est-ce qu'il agite pas la queue de façon bizarre, comme un éventail, monsieur, avant de sonder ?» demande le marin de Gayhead d'une voix posée. Et il a pas aussi un souffle bizarre, très épais, même pour un spermacéti, un torajat d'agout, et prodigieusement rapide, capitaine Akab. Et il a voir aussi 1, 2, 3 hauts, beaucoup de fer dans le cuir, capitaine, s'écria Kikeg, en une phrase saccadée. Tout entre, tord, tordu, comme, il cherchait éperdument le mot et faisait le geste de tourner la main comme s'il débouchait une bouteille, comme un tire-bouchon, lança Akab. Oui, Kikeg, il a dans le corps des harpons tordus et tortillés. Oui, Dagou, son souffle est considérable, gros comme une meule de blé, blanc comme une montagne de laine de Nantucket après la tonte annuelle des moutons. Oui, Tashtego, sa queue s'agite comme un phoque qui a rompu son écoute dans la tempête. Par tous les diables, c'est Moby Dick que vous avez vu, mes garçons. Moby Dick, Moby Dick. Capitaine Akab, dit Starbuck, comme stube et flasque. Il avait jusque-là observé son supérieur avec une surprise grandissante, mais une idée lui vint enfin, qui lui parut pouvoir expliquer cette scène étonnante. « Capitaine Akab, j'ai entendu parler de Moby Dick, n'est-ce pas ? Moby Dick qui vous a arraché votre jambe ?»« Qui t'a dit cela ?» s'écria Akab. Il se tut un instant. « Oui, Starbuck. Oui, mes braves. C'est Moby Dick qui m'a dématé. C'est à Moby Dick que je dois de me tenir debout sur ce moignon mort. Oui, oui. » hurla-t-il, soudain secoué d'un sanglot terrible, puissant, animal, pareil à celui du grand cerf du Canada frappé au cœur. « Oui, oui, c'est ce Moby Dick, c'est ce maudit cachalot blanc qui m'a rasé la mâture et fait de moi un béquillard empoté jusqu'à la fin des temps. » Levant alors les deux bras vers le ciel, il continua dans un déchaînement d'imprécations. « Oui, oui, et je le pourchasserai au-delà du cap de Bonne-Espérance, au-delà du cap Horn, au-delà du Maelstrom de Norvège, au-delà des flammes de l'enfer, mais je ne renoncerai pas. Et c'est pour cela que vous êtes à ce bord, matelot, pour chasser ce cachalot blanc sur les deux océans, d'un bout à l'autre du globe, jusqu'à ce qu'il souffle du sang noir et roule sur son flanc. Qu'en dites-vous, mes hommes ? Vous allez me prêter vos mains, non ? Vous me semblez tous avoir la vaillance qu'il faut. « Oui, oui !» crièrent les harponneurs et les marins en s'approchant rapidement du vieil homme au comble de l'excitation. « Aiguisons nos regards, affûtons nos lances et piquons le cachalot blanc. »« Dieu vous bénisse !» prononça-t-il d'une voix où le cri se mêlait aux sanglots. « Dieu vous bénisse, marin !» Maître d'hôtel allait tirer la grande mesure du grog. « Mais pourquoi cette mine allongée, Starbuck ? Tu ne veux donc pas chasser le cachalot blanc ? Tu ne te sens pas de taille à affronter Moby Dick ?» « Je suis de taille à affronter sa mâchoire tordue, capitaine Akab, et même les mâchoires de la malmort, si la chose doit se produire au cours de notre campagne de pêche. Mais je suis ici pour chasser des baleines, non pour exercer la vengeance de mon commandant. Combien de barriques d'huile tireras-tu de ta vengeance, capitaine Akab, en supposant même que tu l'assouvisses ? Elle ne te rapportera pas grand-chose sur le marché de Nantucket. » « Le marché de Nantucket ? Pouah, approche un peu, Starbuck. » Il te faut une explication un peu plus profonde. Si l'argent doit être l'aune, et les comptables qui tiennent les comptes de l'univers ont calculé, en ceinturant la planète de Guinée, qu'une pièce mesure 3/4 pouce de diamètre. Alors laisse-moi te dire, mon brave, que ma vengeance produira de gros bénéfices ici. » Il se frappe la poitrine, murmura Stubb. « Pourquoi ce geste ?» Vaste bruit, à ce qu'il me paraît, mais cela sonne creux. « Te venger d'une brute qui ne t'a pas frappé... Te venger d'une brute qui ne t'a frappé que par le plus aveugle des instincts ?» s'exclama Starbuck. « Folie. Déchaîner sa fureur contre un simple animal me semble un blasphème, capitaine Ahab. Écoute donc. Descendons plus profond encore d'un nouveau gré. Tous les objets visibles ne sont que des masques de carton-pâte, comprends-tu ? Mais dans chaque événement, dans l'action qui se fait, le geste incontestable, là, une chose inconnue mais douée de raison, fait paraître le relief de ses traits sur la surface inintelligente. Si l'homme veut frapper, qu'il frappe à travers le masque. Comment le prisonnier pourrait-il parvenir à l'air libre sans fracasser le mur ? Le cachalot blanc est ce mur, qu'on a poussé tout contre moi. Il me semble parfois qu'il n'y a rien au-delà. Mais assez. Il me défie, m'accable. Je vois en lui une force scandaleuse qui nerve une insondable malignité. C'est cette chose insondable que je vais par-dessus tout. Et que le cachalot blanc soit agent ou qu'il soit principe, sur lui j'assouvirai ma haine. Ne me parle pas de blasphème, mon garçon. Je frapperai le soleil s'il m'insultait. Car si le soleil était capable de me parler de la sorte, je le serais, moi, de lui répondre, la jalousie présidant à toutes les créations, la loyauté est de règle dans ce genre de combat. Mais vois-tu, cette règle n'est pas la mienne. Qui peut prétendre me dominer ? À la vérité, on ne saurait assigner de frontières. Détourne tes yeux. Le regard ahuri d'un imbécile est moins insupportable que la prunelle incandescente d'un démon. Ah, tu rougis, tu pâlis, ma fièvre a réduit ta colère à une lueur de braise. Mais écoute, Starbuck. Les paroles prononcées dans la fièvre se désavouent d'elles-mêmes. Il est des hommes dont les mots enflammés ne sont qu'une piètre injure. Je ne voulais pas provoquer ton courroux. Oublie cela. Regarde là-bas, ces joues de turc, cette peau recuite et tigrée, ces formes animées peintes par le soleil, des léopards païens, des êtres insoucieux, des mécréants qui vivent sans chercher ou donner aucune explication aux sensations brûlantes qu'ils éprouvent. L'équipage, mon garçon, c'est l'équipage. Ces hommes, ne vois-tu pas qu'ils ne forment avec Ahab, dans cette histoire de cachalot, qu'une seule et même personne ? Regarde Stubb, il rit. Regarde le Chilien là-bas. Il s'ébroue de plaisir à cette seule idée. Secoué de la sorte, l'arbrisseau solitaire que tu es, Starbuck, ne pourra rester debout dans l'ouragan général. Et de quoi s'agit-il ? Songe-y. Aider à piquer une nageoire n'est pas une si grande prouesse pour Starbuck. Qu'est-ce donc d'autre ? Quoi ? La perspective d'une malheureuse chasse fait reculer la meilleure lance de Nantucket quand tous les marins viennent d'empoigner leur pierre à aiguiser ? Ah, les forces intérieures te tiennent en lisière. Je vois, la lame te soulève. Parle, parle donc. Alors, c'est ton silence qui parle pour toi. À part, ses poumons ont bu ce que mes narines dilatées ont exhalé. Starbuck est à moi désormais. Il ne peut plus me tenir tête sans faire acte de rébellion. Dieu me préserve, nous préserve tous, murmura Starbuck très bas. Mais tout à sa joie d'avoir recueilli le consentement tacite et comme enchanté du second, Ahab n'entendit pas cette invocation prémonitoire, ni le rire étouffé qui montait de la cale, ni ce que les vents annonçaient dans le cordage qui les faisait vibrer, ni le claquement inerte des voiles contre les mâts, au moment où le cœur leur faillit. Car bientôt, dans les yeux baissés de Starbuck, reparut la lumière opiniâtre de la vie, le rire souterrain s'évanouit. Les vents recommencèrent à souffler, les voiles à se gonfler, le navire à tanguer et à rouler comme devant. « Ah, signé présage, pourquoi donc apparaissez-vous pour ne point demeurer ? Ombre ? Vous êtes moins des avertissements que des prédictions, et même moins des prédictions venues du dehors que des confirmations d'événements déjà survenus en nous. Les contraintes extérieures sont de peu d'effet. Ce sont les nécessités les plus intimes de notre être qui nous poussent sans relâche en avant. La mesure, cria Ahab. Ayant reçu le pot d'étain plein à ras-bord, il se tourna vers les harponneurs et leur ordonna de présenter leur harpon. Puis, Il les fit s'aligner, devant lui, près du cabestan, leur arme à la main, tandis que ses trois lieutenants se tenaient à ses côtés, avec leurs lances, et que l'équipage formait un cercle autour de ce groupe. Il demeura un instant à fouiller du regard le visage de chacun de ces hommes, et leurs yeux farouches rencontraient les siens, comme les yeux injectés de sang des coyotes, ceux de leur chef, avant que celui-ci ne s'élance à leur tête sur la trace du bison. Mais hélas, pour tomber dans le piège invisible de l'Indien. « Bois et fais passer !» cria-t-il au marin le plus proche, en lui tendant le quart pesamment empli. « Seul l'équipage boit maintenant, passez le pot à la ronde. Cela se prend par petites gorgées, matelot, mais ça va la long trait. C'est brûlant, comme le sabot de Satan. Oui, parfait, le pot circule comme il faut. Ce rhum descend en vous comme une vrille, vous met dans le regard la hargne venimeuse du serpent. Très bien, presque vide. Il est parti par ici, il revient par là. Donne-le-moi un trou. » Mes gaillards, comme les années, toute une vie débordante disparaît en une lampée. Maître d'hôtel, remplis-le à nouveau. Maintenant, mes braves, écoutez. Je vous ai tous rassemblés autour de ce cabestan, vous, mes lieutenants, sur mon flanc avec vos lances, vous, les harponneurs, ici avec vos fers, et vous, vaillants matelots, faites un cercle autour de moi afin que je puisse remettre à l'honneur, en quelque sorte, une noble coutume de mes ancêtres pêcheurs. Oh, mes hommes, vous allez voir que... Ah, mon garçon, déjà de retour. Les mauvais sous ne reviennent pas plus vite ? Donne-le-moi. Mais ce pot serait plein à ras-bord, comme tantôt si tu t'étais secoué par la danse de Saint-Guy. Disparaît, convulsionnaire. Avancez, mes lieutenants. Croisez vos lances devant moi. Très bien. Laissez-moi toucher leur centre. Se disant, il tendit le bras, saisit au point où elles se croisaient les trois lances horizontales disposées en rayon et leur donna une secousse brutale sans cesser de promener son regard attentif de Starbuck à Stubb, puis de Stubb à Flask. On eût dit qu'il se forçait, par un acte de volonté proprement innommable, de leur communiquer les sensations ardentes accumulées dans la bouteille de Leyd de son magnétisme intérieur. Les trois lieutenants reculèrent devant la puissance de ce visage mystérieusement concentré. Stubb et Flask détournèrent les yeux. L'honnête Starbuck baissa les siens. « Vaine tentative !» s'exclama Ahab. « Mais cela vaut peut-être mieux. Car si vous aviez tous trois reçu ne fût-ce qu'une fois ce choc de toute sa violence, qui sait si mon propre fluide électrique ne m'eût pas totalement abandonné et ne vous eût pas foudoyé. Mais il est possible que vous n'en ayez pas besoin. Abaissez les lances, et maintenant, lieutenant, je vous nomme échanson de ces miens cousins, ces trois honorables gentilshommes, païens, mais valeureux harponneurs. La fonction vous répugne, quoi, quand le grand pape lui-même lave les pieds des mendiants en se servant de sa tière comme d'une aiguière. Ô mes doux cardinaux, votre condescendance même vous fera plier l'échine. Je ne vous en donne pas l'ordre, votre volonté le fera pour moi. Ôtez les aiguillettes et démanchez vos fers, harponneurs. » Les trois harponneurs obéirent et se tinrent bientôt devant lui avec le dard dressé de leur harpon, long de quelques trois pieds. « Ne dirigez pas vers moi ces poignards acérés. Retournez-les, les pointes en bas. Ignorez-vous donc où se trouve le godet ? Le soc en haut, bien. À présent, avancez et chassons. Les fers, prenez-les et tendez-les-moi pendant que je verse. » Aussitôt, passant lentement d'un officier à l'autre, il emplit les godets à ras-bord du feu liquide du pot d'étain. « Vous voici maintenant réunis trois par trois. Présentez les calices meurtriers. Partagez-les, vous qui formez désormais une ligne, une ligue indissoluble. » Eh bien, Starbuck, la chose est faite. Le soleil attend pour délibérer et la ratifier. Buvez, harponneurs, buvez et jurez, mes hommes, vous qui armez l'avant de la pirogue meurtrière, mort abominable. Dieu vous prenne tous en chasse si vous ne chassons pas Moby Dick à mort. Les longs godets à barbe d'acier furent levés et, dans un tumulte de cris et d'imprécations contre le cachalot blanc, vidé simultanément à longs traits sifflants, Starbuck pâlit et se détourna en tremblant. Le pot, empli à nouveau, circula une dernière fois à la ronde parmi les hommes en délire. Sur un signe que fit Ahab de sa main libre, tous se dispersèrent. Lui, se retira dans sa cabine.